généalogie permet aussi de retrouver les traces surprenantes de ses ancêtres.
Eh oui, c'est une plongée dans l'histoire et une plongée aussi dans plusieurs pays que je vous propose avec notre invitée Denise Ménessier-Couetto. Bonjour Denise.
Bonjour.
Ravi de vous accueillir. On va parler du livre que vous venez de publier à l'édition à Façon à Fort-Calquier, Généalogie d'une famille suisse. Cette famille suisse, c'est la vôtre, la famille des Couetto. Et c'est un livre qui s'étale sur 4 siècles, 18 générations depuis le canton de Vaud en Suisse, vers 1550, avec François, c'est-à-dire l'ancêtre, des générations d'aubergistes en Suisse, puis Paul-Antoine, qui est né à Dayan en 1791, l'ancêtre qui quitte la Suisse pour l'Algérie, c'est en 1854, avec sa femme et son fils, Henri, alors âgé de 22 ans, et vous retracez toute cette épopée familiale. Pourquoi d'abord vos ancêtres, et après on verra vos motivations, pourquoi vos ancêtres quitte la Suisse au 19e siècle?
C'est ce que nous avons cherché, mon mari et moi, en faisant quelques voyages en Suisse. Et nous avons retrouvé quelques traces écrites dans une commune, ou plutôt dans les archives cantonales vaudoises qui se trouvent à Lausanne. On a retrouvé un papier, une feuille d'un registre de la commune de Dayan, dans laquelle Paul-Antoine Couetto est signalé émigré en Algérie, pour payer ses dettes et s'enrichir.
Voilà. Les deux à la fois.
Les deux à la fois.
À cette époque-là, la Suisse est un pays très rural. Ça n'est pas le paradis fiscal que l'on connaît actuellement avec toutes ces banques.
Absolument pas.
Et donc, il y a une certaine misère qui règne en Suisse à ce moment-là.
À l'époque, la Suisse était très pauvre. Enfin, surtout dans les campagnes. En particulier, c'était l'époque de la guerre en Europe. C'était un lieu de passage de l'armée de Napoléon III. Et donc, il y avait des prélèvements fiscaux. Ils vivaient vraiment pas dans la richesse. C'était pas du tout le paradis fiscal, effectivement, dont on parle.
Donc ce citoyen vaudois qui va partir en Algérie avec femme et enfant. Et à l'époque, la colonisation se faisait par convoi. Un petit peu comme dans les westerns.
Absolument, absolument. En diligence, à pied, en diligence, en bateau sur la rivière. Voilà.
Et puis la traversée de la Méditerranée.
Ah.
C'est un autre monde qui les attend.
Alors là, oui. Alors là, je me suis régalé à faire des recherches parce que je voulais trouver le nom du paquebot qui avait assuré leur traversée de Marseille à Philippeville, à Stora, le port de Philippeville, pour être plus précis. J'ai pu trouver, grâce à la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille, où j'ai eu des partenaires très sympathiques, retrouver le nom du paquebot, c'était le Charlemagne, et je mets une petite note en bas de page dans mon livre pour donner ses caractéristiques à ceux que ça intéresse.
Je n'ai pas besoin de dire que votre livre est très documenté, vous venez de l'expliquer, Denise, donc ça c'est une bonne chose. Ils partent pour l'Algérie, donc, et il y a là-bas des milliers d'hectares à coloniser. Ils formeront d'ailleurs là-bas une vraie colonie suisse en terre algérienne.
Absolument. C'est la colonie de Sétif, mais en fait j'ai essayé aussi là de retrouver des documents historiques sur la création de cette colonie suisse de Sétif. C'est la Compagnie Genevoise qui était une banque qui a obtenu un décret de Napoléon III, que j'ai mis in extenso en annexe numéro 1 d'ailleurs du livre, et qui décrit les conditions de colonisation de ces quelques Suisses qui sont arrivés. Leur arrivée à Sétif a commencé en novembre 1853. Mon aïeul, le grand-père de mon arrière-grand-père, est arrivé en février 1854. Et puis, après, ça s'était échelonné un peu après eux, mais ça a été quelques convois qui sont arrivés jusqu'à Sétif, et dans la région de Sétif, création de 4 ou 5 villages suisses, uniquement suisses.
Et donc quasiment des gros hameaux avec un regroupement de population.
Absolument.
Qui parlait probablement du pays, je suppose, puisque c'était assez frais dans leur génération.
Ah oui, puis ils avaient préparé certainement ce voyage déjà en Suisse entre amis. La préparation qui s'est faite en Suisse, j'ai essayé quand même de la la réciter également avec les informations que j'ai pu obtenir, mais on retrouve des noms d'amis, les Charlet, les Dupuis, les que sais-je, avec les Couetto, qu'on a retrouvé ensuite en Tunisie aussi, et c'est tous des Suisses qui se connaissaient très bien et qui sont partis quasiment faire l'aventure ensemble.
Et ils ont aussi reçu quelques célébrités, par exemple un certain Henri Dunant,
ah oui,
qui sera célèbre par la suite, puisque c'est lui qui est le créateur de la Croix-Rouge. Et donc, ils vivent presque en autarcie, et en tout cas, ils valorisent ce territoire qui est vierge,
bah
quasiment.
Oui, il y a tout à créer.
Et votre famille va se scinder en deux, il y a une partie qui va partir au Maroc?
Non, pas à ce moment-là.
Pas à ce moment-là, un peu plus tard alors.
Un peu plus tard.
Comment ça se passe, la vie au quotidien dans ces territoires?
La vie a été très dure, très pénible pour différentes raisons. D'abord la santé, il y avait le choléra, il y avait eu quelques événements aussi, il y a eu des tremblements de terre qui ont plus ou moins abîmé les maisons, parce que c'était des maisons d'une construction extrêmement légère. Et il y a eu quand même des tribus qui descendaient de la montagne. Il y avait déjà des rébellions.
Oui, se composaient en milices aussi pour se défendre.
Alors, il a fallu, oui, qu'il y ait des milices qui soient créées. Et finalement, au lieu d'arriver à un enrichissement comme il l'avait espéré, c'était un appauvrissement, des difficultés. La femme de mon aïeul est morte 6 mois après son arrivée du choléra. Et c'est ce qui a décidé finalement la petite famille à retourner en Suisse au bout de 9 ans. Ils ne sont restés que 9 ans en Algérie, dans ces conditions-là. Mais mon arrière-grand-père, que j'ai mis sur le livre en couverture, je crois.
Ah, c'est un très beau dessin, c'est votre arrière-grand-père qui s'appelle Alfred.
Oui, Alfred.
C'est un dessin au crayon, je suppose.
Oui, au fusain.
Et c'est magnifique.
Alors cet arrière-grand-père, qui est le cœur de mon livre, je lui rends un hommage dans ce livre, cet arrière-grand-père. Il est retourné en Algérie à l'âge de 18 ans, parce qu'il avait quitté ses parents, l'avait emmené en Suisse, donc il n'avait que 6 ans et demi à ce moment-là. Mais
la Suisse qu'il découvrait donc.
Qu'il découvrait, l'époque. Oui, bien sûr, puisqu'il était né en Algérie lui-même. Et il est. Oui, c'est ça, il est bien né en Algérie, je commence à douter. Il est donc retourné en Algérie, il a épousé sa cousine germaine, et en 1881, il a passé la frontière vers la Tunisie, mais pas du tout vers le Maroc. À l'époque, on ne parlait pas du Maroc. Le Maroc n'était pas encore français, d'ailleurs. En 1881, la Tunisie, le protectorat français s'est installé en Tunisie, et mon arrière-grand-père Alfred est arrivé en Tunisie avec l'armée, avant l'installation du protectorat français.
Évidemment, il parlait couramment arabe, il connaissait fort bien la culture musulmane.
Absolument,
il était bien intégré. Oui. Et puis, en même temps, c'est un personnage de roman, en fait, Alfred. Hein. On le voit au fur et à mesure. Il y a un passage, je ne résiste pas à l'envie de lire ce passage, vous vous en doutez, c'est son mariage avec Eugénie. C'était pas du goût de la famille, d'ailleurs. Et il y a un tout petit extrait très simple. Voilà. Arrivé en Algérie, il tomba amoureux de sa cousine germaine Eugénie Demont, et alors qu'il demandait au père d'Eugénie la main de sa fille, celui-ci lui répondit « Je consens à ce mariage, mais je te préviens que ma fille n'a pas de dot. » Réponse du prétendant « Je la prendrai toute nue. » C'est magnifique, parce que bon, c'est à la fois un cri du cœur, et puis en même temps c'est la réalité aussi. Bon, il aimait sa cousine, et alors, eh ben, il la prend quand même. Et donc c'est ce personnage qui va accompagner toute la lecture de ce livre. Et puis il y a toute cette histoire, évidemment, une partie de la famille qui va immigrer, lui partir vers le Maroc.
Voilà, c'est ça.
Qui seront des cultivateurs, qui vont toujours développer une certaine économie.
Au Maroc, enfin, en Tunisie, c'était des cultivateurs. Mais donc ce sont des enfants de mon arrière-grand-père Alfred qui sont partis au Maroc, depuis la Tunisie. Et là-bas, ils sont devenus plutôt fonctionnaires, parce qu'il y avait un de ses fils qui était polytechnicien, un autre qui était ingénieur dans une grande école, je crois que c'est les travaux publics, et ils sont partis comme hauts fonctionnaires. L'un d'eux a créé le port de Rabat, on les retrouvera dans le dernier chapitre du livre qui a été écrit par ma cousine de la branche du Maroc.
Alors, on en arrive justement sur la manière dont vous avez travaillé, c'est-à-dire vous avez fait un travail de recherche, qui est à la fois un travail scientifique, mais aussi sur la généalogie, puisque vous êtes plongé dans l'histoire de votre famille, et forcément dans l'histoire de ces pays que l'on traverse, avec une vision très... très humaine, c'est-à-dire que quand un de vos ancêtres épouse une fille qui est d'origine maltaise, de l'île de Malte, qui est juste à côté de la Tunisie, tout d'un coup ce sont deux cultures différentes qui se marient, et tout d'un coup on se rend compte que le Suisse immigré, je mets des guillemets partout, et qui vit en Tunisie, eh ben, il est méditerranéen. Et là, ça prend une ampleur terrible, puisque effectivement, il épouse une famille méditerranéenne de l'île de Malte à côté.
Mmh, tout à fait. C'était ma grand-mère.
Et voilà, donc c'est en même temps un cheminement personnel qui vous a guidé, on le sent, et aussi des recherches scientifiques. Et il y a encore beaucoup de choses à découvrir, je suppose.
Des recherches surtout historiques, je dirais. Disons que la science, c'est la méthode que j'ai, j'ai bénéficié de
vous
ma
êtes
formation scientifique.
Une scientifique de formation.
De formation scientifique. Et c'est ce qui m'a aidé à trouver une méthode, parce que vraiment pour organiser les recherches en généalogie, il faut être ordonné. Et puis se donner des règles, parce que on a du mal, il y a tellement d'informations. On a du mal à, disons, elle est classée, en éliminer certaines. Bon, j'ai trouvé la formule de revue de presse à un moment donné pour pouvoir faire paraître toutes les petites informations, les bribes sur mon arrière-grand-père, ses recherches archéologiques. Je suis allé aussi chercher la naturalisation. J'ai obtenu un dossier de naturalisation. Je savais pas lequel de mes aïeux avait demandé la naturalisation, la nationalité française, puisque nous étions Suisses à l'origine. Et j'avais bien cru à un moment que ça s'était passé en Algérie. Bêtement, l'Algérie française, les Suisses arrivent en Algérie.
Alors que c'était en Tunisie.
Et c'était beaucoup plus tard, en Tunisie, que toujours Alfred, toujours le même, mon arrière-grand-père, a fait les démarches pour devenir français.
Il y a aussi beaucoup de zones d'ombre qui subsistent. Par exemple, Alfred avait-il un frère ? Là aussi, c'est une question qu'on peut se poser.
Ah ben, je mets plein de points d'interrogation dans mon livre.
Et ça, c'est bien, parce que ça permet de voir beaucoup de choses. Et puis, on sent aussi la petite fille qui a vécu en Fidaville, donc en Tunisie. C'est votre cas, Denise. Qu'est-ce que vous avez gardé des parfums d'Afrique du Nord dans votre vie quotidienne ?
Merveilleux, ça. Bon, je suis né déjà à la déclaration de la guerre. Mon père a oublié de me déclarer quand il est allé au bureau de recrutement à Sousse. Je suis la cinquième d'une famille et j'ai passé une enfance magnifique, les 11 premières années, en Fidaville, qui est un petit village. On allait à la plage tous les étés. Bon, la guerre a un petit peu rendu difficile ces moments-là. Et ensuite, le lycée de Carthage, mes études secondaires à Carthage, ça a été aussi une fleur, si vous voulez qu'on parle d'un bouquet, quoi.
Et puis, une ville emblématique aussi. Quand on dit Carthage, on dit, tiens, c'est la rivale de Rome, quand même. Faut pas l'oublier.
Oui, il n'en reste plus grand chose, n'est-ce pas, de ce prestige.
Vrai. Je peux témoigner aussi, de mon côté.
Voilà, également.
Vous avez quitté la Tunisie en 1964, autrement dit, 6 ans après, 8 ans après l'indépendance.
En 59.
Donc,
3 ans après l'indépendance.
Et vous êtes arrivé en France et comment vous est venu cette, j'allais dire presque ce virus de la généalogie?
Oh, il a fallu que j'attende d'être à la retraite parce que...
Et d'avoir du temps.
Pour avoir du temps. Non, mais c'est... En fait, comment ça m'est venu? Parce que au décès de mon père nous a laissé, mes 4 frères et sœurs et moi-même, en héritage, un magnifique arbre généalogique. Et avec ses mémoires, il a rédigé ses mémoires, qui sont un ouvrage bien plus important que le mien, mais qu'on n'a jamais voulu publier dans la famille. Et donc, cet arbre généalogique qui était fait à la main par mon père, qui remontait déjà en 1525, donc il y a 4 siècles, comme vous l'avez signalé, j'ai trouvé que typiquement, c'était informatisé, parce qu'on ne pouvait pas aller plus loin manuellement. Et comme j'étais la seule de la famille à avoir cette formation informatique, je me suis lancé là-dedans. Je me suis senti disons, désigné par mes frères et sœurs pour continuer la généalogie de la famille Cueto. Voilà.
Avec plusieurs voyages à la clé, alors, avec plusieurs voyages, connaissances, et puis oui. D'essayer de retrouver des Cueto en Suisse, plus ou moins par an. Alors voilà. D'essayer, c'est une quête, c'est quelque chose d'assez particulier. Donc, chers amis auditeurs, si vous êtes intéressés par tout ce qui est généalogie, l'histoire de la Suisse, pourquoi pas, et surtout l'histoire de l'Afrique du Nord, essayez de comprendre un petit peu l'apport des nations occidentales dans ce territoire. C'est un livre qui se dévore véritablement, qui est très bien écrit. Un mot sur Isabelle Mercier, notre amie de l'édition à façon, qui vous a, je suppose, secondé, guidé pour la réalisation.
Absolument.
De ce livre.
Ah oui, 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 je la remercie vivement. Elle sait d'ailleurs que je suis à la radio aujourd'hui. Isabelle Mercier m'a beaucoup aidé à mettre en forme, à corriger déjà les erreurs. Elle m'a conseillé pour la rédaction, le complément de certains paragraphes, la mise en page. Et puis vraiment la confection même du livre.
Et vous l'avez dit aussi tout à l'heure, il y a des annexes qui sont très importantes et qui sont de qualité vraiment historique importante. On retrouve le maréchal Lyautey, on retrouve beaucoup de personnages qui sont passés en Afrique du Nord.
Et les références également. J'insiste sur les références qui sont toutes... mon récit est véridique, quoi.
Vous allez signer votre livre en dédicace cette semaine?
Oui, dans 3 jours, je serai l'espace culturel Leclerc, où j'ai mis en vente ce livre, ainsi que dans d'autres librairies à Manosque. Mais donc, je serai à l'espace Leclerc samedi prochain, de 14h30 à 18h30.
Samedi 20 juin, Généalogie d'une famille suisse, l'édition à façon. C'est un livre de Denise Ménessier-Cueto. Merci Denise d'avoir été mon invitée et d'avoir parlé de ces sujets passionnants.